Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
Que la grâce et la paix de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus le Christ, soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
Chant un petit peu, j'allais dire pompier, en tout cas. Voilà, qui exprime effectivement quelque chose de triomphant, sonne juste pour ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est-à-dire l'accomplissement glorieux, triomphant, oui, du Christ. À quel grand prix ! Au prix de sa vie offerte que nous célébrons chaque Eucharistie. Ce sera la manifestation, oui, triomphante, pompante, de cette victoire du Christ qu'il a méritée à grand prix. Mais aujourd'hui, ce règne de Dieu, Dieu règne déjà. C'est ce que nous disons en chaque oraison, toi qui vis et règnes. Mais ce règne est caché. Ce règne grandit dans l'humilité. Ce règne de Dieu est au milieu de vous, est en vous, dit Jésus. Alors, pour que ce règne, eh bien, grandisse effectivement, arrive, n'oublions pas quand nous disons que ton règne vienne, que ton règne arrive, que c'est d'abord dans nos cœurs qu'il doit s'étendre, qu'il doit régner en vérité. Chasser tout ce qui est ténèbres, chasser tout ce qui est péché, compromission avec ce monde qui est si souvent sous l'influence de l'adversaire, du démon. Oui, demandons en priant ce cri, que ton règne vienne, ce que Jésus lui-même nous a appris, eh bien, demandons qu'il en soit ainsi dans notre vie. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer ce mystère qui nous sauve, ce mystère de l'Eucharistie, du règne de Dieu qui s'approche de chacun de nous en reconnaissant que nous avons péché.
Du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu.
Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Alors, est-ce le dimanche du Christ roi ou le dimanche du bon pasteur ? Puisqu'il y a plusieurs images ou plusieurs termes qui sont dans cette liturgie de la parole, l'image du berger, l'image du roi, l'image du juge aussi. Bien, celui qui est bien tout cela, la foi, c'est Jésus, car le mystère du Christ, nous le savons bien, est inépuisable. Et vous avez peut-être un jour recensé comme... C'est classique de le faire et c'est bien. pour montrer ce mystère inépuisable du Christ. On ne met jamais la main sur le Christ, on croit le connaître, mais c'est toujours partiellement qu'on saisit, qu'on connaît le Christ. Oh, que oui, très partiellement. Tant mieux, on aura tant à découvrir là-haut. Oui, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, la porte, le bon pasteur, la vigne, le pain vivant descendu du ciel. Vraiment Dieu, vraiment homme, le Christ est inépuisable. Alors la liturgie de la parole nous le présente effectivement aujourd'hui d'abord comme ce berger. Ce berger que, dès la première alliance, le Seigneur veut être reconnu comme celui qui veille avec sollicitude sur les hommes et en particulier sur le peuple qui lui est consacré. Par le prophète Ézéchiel, au moment où le peuple est encore en exil et dans la désespérance bien souvent, par son prophète, Dieu lui rappelle que non, il ne l'a pas abandonné. Il sait ce qu'il fait, ce qu'il a permis. C'est pour le salut de son peuple qu'il a permis cette épreuve purificatrice. Mais Dieu va rechercher, rassembler ses enfants dispersés, comme le dira aussi saint Jean de Jésus. Il devait mourir pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Le psaume 22, lui aussi, le psalmiste chante justement son expérience d'un Dieu qui veille, qui est berger, qui conduit, qui nourrit, qui rassasie, qui défend aussi par son bâton, qui rassure, il défend ses brebis. Saint Paul, lui, nous met plus devant les yeux la royauté du Christ, comme celui qui a reçu de son Père un pouvoir royal, une souveraineté. Et je veux tout simplement remettre dans vos oreilles quelques paragraphes du catéchisme de l'Église catholique. J'espère que vous l'avez quelque part dans votre bibliothèque et que de temps en temps vous le consultez. Je confesse que je ne le consulte pas assez, mais chaque fois que je m'y replonge un petit peu, et c'était justement l'occasion aujourd'hui, je me suis dit, tiens, nous confessons tous les dimanches, en latin ou en français, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Je me dis, qu'est-ce que le catéchisme dit de cela? Alors, permettez-moi donc de vous partager ce qui me semble, ce qui semble important à l'Église de confesser, de nous redire. Le Christ, d'ailleurs, le catéchisme, en développant cet article de foi, il reviendra dans la gloire. Donc, dans la gloire, c'est la manifestation de Dieu dans la Bible. La gloire, c'est le rayonnement de sa puissance, une puissance qui est au service de son amour sauveur. Et de citer beaucoup saint Paul, car nous avons entendu ce passage de la lettre, je ne sais même plus, quelle lettre c'était, première aux Corinthiens, je crois. Mais c'est important de mettre ensemble, de confronter tout ce que saint Paul aussi nous dit de cette royauté du Christ. Le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur, le souverain des morts et des vivants, dit-il dans la lettre aux Romains. Et le catéchisme de l'Église de nous dire que l'ascension du Christ au ciel signifie sa participation dans son humanité, à la puissance et à l'autorité de Dieu lui-même. Jésus-Christ est Seigneur, il possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il est au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance et souveraineté, car le Père a tout mis sous ses pieds. Ça, c'est la lettre aux Éphésiens. La rédemption, ce que nous célébrons maintenant, la rédemption est la source de l'autorité que le Christ, en vertu de l'Esprit-Saint, exerce sur l'Église. Le règne du Christ est déjà mystérieusement présent dans l'Église, qui vit et règne avec toi, Père et le Saint-Esprit. Oui, le Christ est roi. Il a acquis cette royauté par son offrande sacrificielle. Le règne du Christ est déjà mystérieusement présent dans l'Église, germe et commencement de ce royaume sur la terre. Nous sommes le royaume du Christ. Cela est manifesté par les signes miraculeux, poursuit le catéchisme, par les signes miraculeux qui accompagnent l'annonce de ce royaume par l'Église. Pensons bien sûr aux guérisons plus ou moins spectaculaires, évidemment, que certains obtiennent par la prière et par la foi, mais pensons surtout aux grâces de conversion qui sont nombreuses et qui font de ces convertis, enfin d'une manière particulière, des témoins de ce règne de Dieu qui grandit, hein, mystérieusement, humblement, sans barouf, mais qui est là, qui progresse. Chacun d'entre nous a pu entendre ou lire ces témoignages de conversion qui sont les signes du royaume qui avance, qui vient. C'est ce qu'avait annoncé le Christ à ses apôtres. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui croient en mon nom. Déjà présent dans son Église, donc, le règne du Christ n'est cependant pas encore achevé avec puissance et grande gloire. C'est pourquoi les chrétiens prient, surtout dans l'Eucharistie, pour hâter le retour du Christ en lui disant « Viens Seigneur ». J'espère que vous le dites en dehors même de la messe. Ce serait bon signe. Si vous dites, Seigneur, qu'est-ce que tu tardes à venir quand même? Allez, viens, Seigneur, mais viens. Reviens, Seigneur. J'espère que c'est un cri qui vous habite de temps en temps. Enfin, c'est vrai qu'à ce, oui, ce déferlement de mal aussi qui meurtrit tellement notre monde, qui abîme notre monde, eh bien, on va, pendant ce temps de l'Avent, bientôt aussi dire, viens, Sauveur du monde. Le cri de l'Église, « Viens Seigneur Jésus !» Il faut qu'il soit le nôtre. Rappelant le catéchisme, en rappelant justement qu'il y a, nous sommes l'Église combattante, nous sommes au cœur d'un combat spirituel, ô combien, rappelant cette persécution et l'épreuve ultime de l'Église qui doit passer, comme son Seigneur, par une Pâque, une grande Pâque. Le royaume ne s'accomplira donc pas par le triomphe historique de l'Église. Intéressant, parce qu'on a nos idées toutes faites, peut-être, à déplacer. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui fera descendre du ciel son épouse. La cité sainte. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier après l'ultime ébranlement de ce monde qui passe. Voilà, cela rejoint peut-être ce que je disais au début, que ce royaume qui est déjà présent grandit. Oui, le Seigneur nous le dit par moult paraboles, vous vous souvenez du grain de sénévé en particulier, mais grandit de manière cachée. Beaucoup, très caché quand même. Et donc, il ne faut pas attendre un triomphe historique de l'Église. Non, c'est pas comme ça que Dieu s'y prend. Oui, ce jugement dernier. Alors là, c'est l'Évangile, évidemment, qui surtout nous montre Jésus, ben, qui sera juge par la volonté du Père. Alors, il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Alors, seront mis en lumière la conduite de chacun et le secret des cœurs. Alors sera condamnée l'incrédulité coupable qui a tenu pour rien la grâce offerte par Dieu. L'attitude par rapport au prochain révélera l'accueil ou le refus de la grâce et de l'amour divin. C'est effectivement ce que nous avons entendu dans cet évangile bien connu. Un évangile qui est solennel et grave. Ce jugement du Christ portera sur chacune de nos vies humaines, donc, cette vie qu'il nous a donnée et confiée pour qu'elle porte de bons fruits. Un évangile qui nous rappelle le poids, le sérieux de notre vie ici-bas qui prépare notre état d'éternité. Jésus qui, dans sa bonté, nous a déjà dit sur quoi porterait l'examen final, le jugement dernier. Les candidats à des examens, à des concours, des examens plutôt, sont bien contents quand le professeur dessine à peu près ce qui lui tient à cœur et qu'il va probablement insister sur tel ou tel point dans l'examen. Et Jésus nous a fait la bonté de nous dire sur quoi porterait l'examen final. L'amour concret en acte du prochain, spécialement de celui qui est dans le besoin d'une manière ou d'une autre. Ce que saint Jean de la Croix résumait dans cette parole, au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. Et Jésus promet de prendre avec lui ceux qui l'auront accueilli, soulagé, servi, réconforté, aimé dans leurs frères. Le plein droit de juger, poursuit le catéchisme, le plein droit de juger définitivement les œuvres et les cœurs des hommes appartient au Christ en tant que rédempteur du monde. Il a acquis ce droit par sa croix. Oui, c'est à grand prix que le Seigneur nous a offert le salut, et donc il a le droit de juger. Qu'est-ce que nous avons fait de ce salut offert? Aussi le Père a-t-il remis le jugement tout entier au Fils, nous dit l'évangile de saint Jean. Or le Fils n'est pas venu pour juger, mais pour sauver, pour donner la vie qui est en lui. C'est par le refus de la grâce en cette vie que chacun se juge déjà lui-même, reçoit selon ses œuvres et peut même se damner pour l'éternité en refusant l'esprit d'amour. C'est ce que nous a dit dans cet évangile solennel le Christ, qui nous rappelle les conséquences qui peuvent être terribles pour celui qui s'endurcit à mépriser la grâce de Dieu. Alors, ce n'est pas à nous de faire le tri sélectif. Hein. Jésus nous l'a rappelé dans cette parabole de l'ivraie et du bon grain qui poussent ensemble jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui sait les cœurs. Les hommes regardent l'apparence, nous dit l'Écriture, mais Dieu regarde les cœurs. À nous, nous savons que nous sommes capables, Dieu merci, effectivement, de nous laisser toucher, comme le Samaritain, de nous laisser toucher par la compassion et par l'assistance, et de répondre par l'assistance à ceux qui sont dans le besoin d'une manière ou d'une autre. Mais nous savons aussi que nous sommes capables de fermer notre cœur par l'égoïsme, voilà, par l'indifférence, par une autre foi. Eh bien, il n'y aura peut-être pas d'autre foi, parce que peut-être que le Seigneur viendra nous chercher ce soir même. Alors demandons au Seigneur cette grâce, voilà, d'écouter, de prendre au sérieux la voix du bon berger qui nous montre le chemin de la vie, le chemin du salut, et de le suivre. Amen.